au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour, heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui va nous donner le plaisir d'accueillir Marie Vizot, journaliste, et qui vient de faire paraître chez Erol, Entreprise, deux points, une affaire d'État. Un livre de 14 euros pour 130 pages. Marie, bonjour.
Bonjour.
Heureux de vous accueillir ici sur notre antenne. C'est votre premier ouvrage ?
C'est mon premier ouvrage, tout à fait.
Alors, je vais vous présenter très très brièvement. Vous êtes donc journaliste dans un grand quotidien national bien connu, ceci depuis 2002. Et vous êtes depuis quelques années spécifiquement en charge du suivi de la politique économique du gouvernement. C'est toujours le cas ?
C'est toujours le cas.
D'accord. Et qu'est-ce qu'elle vous dit, cette politique du gouvernement, tout de suite ?
On suit l'actualité au quotidien. Vous le voyez comme moi, la politique économique du gouvernement en ce moment est concentrée sur les déficits, les enjeux d'avenir.
Bon, d'accord. Vous avez du pain sur la planche.
Exactement.
Ok. Alors, vous évoquez donc le problème des relations des entreprises avec l'État, avec ce titre malicieux, une affaire d'État.
Tout à même. Fait, oui.
Alors, il est bien évident que depuis longtemps, ce rapprochement interroge les économistes. Un certain nombre y voient quelque chose de salutaire. D'autres, comme un de vos collègues, Monsieur de Kerdrel, disait récemment dans une de ses chroniques, au secours, l'État revient. Alors pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise chose, ce retour de l'État ? Ou cette relation, enfin, en tout cas.
Pour répondre à votre question, qui dit autrement, le retour de l'État est-il légitime ? Il faut revenir un petit peu à la genèse de ce livre. Je me trouvais, je vous raconte la scène, au ministère de l'économie, chez un des pontes de Bercy, qui me dit « Marie, vous savez, aujourd'hui, si on prend la liste des sociétés du CAC 40, il n'y en a plus une seule dans laquelle l'État n'a pas un intérêt d'une manière ou d'une autre, que ce soit capitalistique, fournisseur-client, stratégique. » Et là, je me suis dit, il faudrait creuser un petit peu plus loin parce que qu'il n'y ait plus aucune entreprise dans laquelle l'État n'a pas un intérêt, c'est quand même étonnant. Alors, on était, pour le préciser, en février 2009. La crise battait son plein. L'État était venu au secours des banques.
L'intervention nécessaire et urgente de la puissance publique.
Exactement.
Pour soutenir les secteurs en difficulté, comme la banque et l'automobile. C'est ce que vous dites dans votre
introduction. Voilà. Donc là, tout à fait légitime. On voulait éviter le risque systémique, ce qu'on appelle le risque systémique dans le secteur bancaire, c'est-à-dire que ça se propage à toute l'économie française. Donc là, même si la réponse peut être nuancée, oui, l'État était légitime à intervenir et à revenir. Après, faut-il dire qu'on assiste à un retour de l'État-providence et de l'économie dirigée ? Bon, il faudra surveiller un petit peu ce qui se passe dans les prochains mois. On est encore un petit peu dans les stigmates de la crise.
Enfin, le balancier semble quand même
pencher
dans ce sens, enfin dans le sens d'un retour de l'État.
Penche dans le sens d'un retour de l'État. Après, il va falloir surveiller la manière dont c'est fait. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de situations dans lesquelles l'intervention de l'État est légitime. Il y en a d'autres, et surtout dans la manière dont c'est fait, où elle l'est moins.
C'est ce que vous appelez les ambiguïtés de l'État actionnaire.
Alors, il y a les ambiguïtés de l'État actionnaire, où l'État doit gérer le fait qu'il soit client, régulateur.
C'est ça, qui est pure casquette, comme on dit.
Qu'il ait plusieurs casquettes. Et il y a aussi, dans le cas où l'État n'est pas actionnaire, des intrusions pures et dures dans la stratégie des entreprises. Et c'est là où ce qu'il a pu se permettre pendant la période de crise, eh ben, il va falloir qu'ils se le permettent un petit peu moins à l'avenir.
Mais vous allez vexer le corps de l'inspection des finances.
Peut-être que l'inspection des finances n'aura pas à l'avenir tous les droits dans les entreprises. On l'a vu pendant la crise, on se souvient du président de la République demandant la tête d'un banquier.
Tout à fait.
Oui, peut-être que c'était le reflet de ce que pensait l'opinion publique. Puisque quelqu'un de l'entourage du président de la République me disait du taxi jusque à la ménagère, jusqu'aux administrateurs des grandes sociétés, tout le monde pensait ça. Si ce n'est qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a des règles de gouvernance dans les entreprises et qu'on ne peut pas passer outre ces règles de gouvernance. Donc ça, c'était pendant la crise. Le contexte était particulier. Les politiques savaient que les Français attendaient ça de l'État. Bon, il y a eu tout ce qui s'est passé après, dans les périodes un peu plus récentes, là, février-mars dernier. l'intrusion de l'État dans la stratégie d'une entreprise comme Total ou d'une entreprise comme Renault.
Tout à fait. Qui, elle, n'était pas en situation, on va dire, de dépendance financière
beaucoup
ou structurelle,
moins.
Enfin beaucoup,
beaucoup
moins. Beaucoup. Total ne l'était pas du tout.
Total ne l'était pas du tout.
Si et ce c'est n'est vrai que effectivement, c'est...
Bon, c'était pour sauver l'emploi. C'est l'État légitime ça par la sauvegarde de l'emploi. Si ce n'est que convoquer le patron de Total un week-end sous le flash des photographes, ça n'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas ça qu'il faut faire.
Alors, on va dire que c'était une parenthèse et qu'on va essayer de revenir à des choses beaucoup plus réalistes. Je vous lis quand même à la page 56 les ambiguïtés de l'État actionnaire. Vous avez une plume très aérée et extrêmement plaisante. Je pense que nos auditeurs vont s'en rendre compte. L'État, dites-vous, une caution puissante, mais un investisseur suspect aux yeux de l'étranger et qui en outre est perpétuellement soupçonné d'interventionnisme. Gouvernance montrée du doigt, prise de décision opaque, coincé dans son costume de puissance publique, l'État pendant des décennies n'a pas été un actionnaire exemplaire. On se demande d'ailleurs s'il est aussi un bon maître. Mais c'est une autre,
Effectivement. Si ce n'est que les lignes que vous lisez datent d'un rapport d'il y a quelques années, qu'entre-temps, l'Agence pour les participations de l'État a été créée. Donc la même ambiguïté demeure. Mais effectivement, des progrès ont été faits. De plus en plus, l'État essaye de se comporter comme un actionnaire comme les autres. Il ne le sera jamais, finalement.
Voilà. Alors, avant d'en venir, parce que l'État a certainement quelques responsabilités, et on peut discuter de sur son rôle. Les entreprises ont aussi quelques dérives, on va y venir, mais on peut peut-être faire la transition en parlant de... Parce que je crois que vous avez interviewé un certain nombre de chefs d'entreprises, ou en tout cas vu des rapports, peut-être même des syndicalistes, je ne sais pas si vous...
Un petit peu tout le monde.
Alors, qu'est-ce qu'ils en pensent, on va dire, ces partenaires sociaux de leur côté?
Alors, les partenaires sociaux, ils ont un terrain de jeu commun avec l'État, qui est l'emploi. Donc, même de temps en temps, il y a une petite connivence entre eux. Donc, les partenaires sociaux ont un rôle un petit peu ambigu aussi, c'est-à-dire que par essence même, ils ne peuvent pas être d'accord avec l'État, mais finalement, quand il y a cet interventionnisme qui est là pour sauver emploi et maintenir de la valeur, eh ben, ils sont un petit peu dans le jeu. Le sont beaucoup moins, on en parlait tout à l'heure, les banquiers. L'État a ces dernières années vilipendé le banquier, créé le mythe du vilain banquier. Une profession qui a dû subir aussi les convocations par le chef de l'État l'été à l'Élysée. Alors eux disent, pendant la crise, on avait signé un contrat avec l'État. Très bien, il est venu à notre secours. Il a apporté ce qu'il devait apporter en échange de son soutien financier. Nous nous engagions à poursuivre le financement de l'économie. Les banquiers disent, le problème, c'est que après, il y a une dimension politique qui s'en est mêlée et qu'il y a eu des avenants au contrat que nous avons mené, que nous avions signé. La polémique sur les bonus qui en a suivi. C'est une dérive des entreprises autant que de l'État, cette histoire des bonus. Les banquiers n'ont pas été raisonnables. L'État s'en est emparé de manière un petit peu violente, pour dire les choses.
Et alors, le problème, c'est que ça pose la question du juste prix. Car en fait, quel est le juste prix? Les bonus, c'est normalement le résultat d'un contrat. D'ailleurs, c'est ce que répondent les banquiers. Après tout, appliquer un contrat, c'est le juste prix. Effectivement, d'autres penseurs peuvent penser que le juste prix, c'est la sueur, les larmes, théorie marxiste, ou alors le talent.
Effectivement.
Et vous en pensez quoi, vous?
Ils ont raison. Le juste prix, la rémunération d'un travail, un contrat qui a été passé à l'avance. Alors, ce débat sur les bonus est intervenu à une période où les banquiers étaient inaudibles. C'est-à-dire que quelle qu'aurait pu être leur explication, ça ne passait pas. Les Français n'étaient pas prêts à entendre les montants totalement exorbitants de tous ces bonus.
Oui, donc c'était ça la grande difficulté.
Exactement.
Alors je vais vous dire que je voudrais signaler que cet ouvrage est particulièrement bien documenté, nourri d'exemples. Vous avez rencontré et décrypté un certain nombre de rapports de l'État avec Alstom, Renault, Total, les banques, on vient d'en parler, Eliès, Molex, etc. Mais ce qu'il faut préciser peut-être avant de passer à la troisième question sur donc les dérives des entreprises elles-mêmes, c'est que cet ouvrage appartient à une collection dirigée par Nicolas Bouzou qui porte le titre de Capitalisme en mouvement et qu'il a pour vocation de promouvoir de courts essais grand public sur les questions économiques. Et donc, vous êtes une des quatre premières à avoir publié sous cette enseigne, sous ce titre. Et donc, ce qu'on vous avait signalé, c'est que la particularité de cette collection est de proposer des ouvrages accessibles et clairs qui apportent un point de vue socio-économique sur l'évolution actuelle dans laquelle nous vivons. conjuguant actualité, conseil d'experts sur un temps vivant, etc. Donc c'est précisément le style de cet ouvrage.
Faire de la pédagogie, faire comprendre les grands enjeux aux Français.
Voilà, donc vous y réussissez fort bien. Donc vous avez une grande capacité de pédagogie et de simplification. Alors on en vient donc maintenant à la troisième question, hein, puisqu'on a souligné les dérives, les ambiguïtés de l'État. On a vu que les partenaires sociaux étaient, eux, dans des situations aussi un petit peu médiane, ne sachant pas très bien de quel côté il fallait faire pencher la balance.
Enfin, leur voix est toujours du même côté.
Alors, troisième point, page 105, vous nous parlez donc des dérives de l'entreprise. Alors, les dérives de l'entreprise, qu'est-ce que vous nous dites sur ce sujet ?
Les dérives de l'entreprise.
Alors, c'était le cas des bonus.
Le cas des bonus,
en particulier.
En particulier, que je situe un petit peu au milieu entre les dérives de l'État et les dérives de l'entreprise.
C'est
mais
ça.
C'est plus lié à l'événement crise. Les dérives des entreprises, elles remontent avant ça.
Oui.
On se souvient de plusieurs scandales, entre guillemets.
Oui, plusieurs situations, on va dire, particulières.
Notamment au moment des licenciements boursiers. Je ne sais pas si vous vous souvenez
de
cette histoire Michelin, ou à 24 heures d'intervalle, ou même le même jour, peut-être, je ne me souviens plus.
Oui, le lendemain des publications,
voilà,
on licenciait.
Le lendemain des publications qui étaient excellentes, les résultats financiers étaient très bons, on annonçait un plan de licenciement massif qui, de fait, était totalement incompris.
Et carrément par l'opinion.
Et relayé par la presse, par l'opinion.
Donc, en fait, c'est vrai que les entreprises ont, à quelque part...
donné le bâton pour se faire battre.
Voilà, en ne faisant pas assez attention du timing et du bon temps.
On ne peut pas se couper impunément de l'opinion publique.
C'est ça.
Voilà. Même si, encore une fois, Michelin comme les autres, c'est une entreprise avec des actionnaires qui souvent ne sont pas à l'étranger. Les investisseurs, pareil, ne sont pas en France, donc sont à l'étranger. Tout ça correspond à une stratégie. Alors, cette vision globalisée de l'entreprise se cogne, si je peux me permettre, avec la vision totalement nationale et de l'opinion publique sur le territoire.
Alors, quel autre point vous avez gardé en tête comme point fort dans ces développements ? Je rappelle, donc, paru chez Erol, Entreprise, une affaire d'État par Marie Vizot. C'est un ouvrage qui fait juste un peu moins que 130 pages.
Tout à fait. Puisque nous parlions du fait de ne pas pouvoir se couper impunément de l'opinion publique, il est plus que certain que dans le futur, les chefs d'entreprise seront bien plus attentifs, non pas à leurs avantages particuliers, mais à l'insertion de leur entreprise dans le tissu social.
C'est un des points qui vous a semblé représenter l'évolution. Je vais lire, parce que vous le dites très bien dans votre conclusion, et là encore on retrouvera la souplesse de votre plume. Ce qui est nouveau dans cette crise, ce n'est pas tellement le retour en force des États pris individuellement, c'est que si on admet que le G20, au-delà de son impact médiatique, préfigure une gouvernance planétaire économique légitime, face à un capitalisme global, il y a maintenant une autorité publique globale qui émerge. Les États sembleraient ainsi accepter de perdre une partie de leurs prérogatives nationales, voyant bien que les opinions publiques réclament des actions efficaces. C'est ce que vous venez de démontrer.
C'est exactement ça. C'est l'explication des relations à venir entre la puissance publique et les entreprises dans le monde de l'après-crise. L'action de l'État, ces trois dernières années, était légitime sur le territoire. Mais on voit que la légitimité de cette action... elle a été cherchée à l'étranger. C'est tout l'activisme de Nicolas Sarkozy quand il se rend au G20 pour que ce qu'il exige de la part des banquiers sur leurs bonus en France, il ne soit pas le seul à le faire. Vous parliez de mon collègue Yves de Cardrel tout à l'heure. Yves de Cardrel, il dit aussi quelque chose. Il dit « La France n'est pas une île ».
Tout à fait. C'est ce que vous reprenez aussi comme citation. Et donc, effectivement, on ne peut pas
On ne peut pas se comporter comme si nous étions seuls au monde. S'imposer des règles et imposer des règles à nos entreprises comme si la concurrence n'existait pas. Nous sommes dans un monde globalisé. C'est un fait.
Et il n'est pas démontré que l'État soit un meilleur gestionnaire que les entreprises sur le long terme. Donc, il joue son rôle souverain quand il s'agit de sauver un secteur
en difficulté stratégique, parce qu'il est aussi légitime sur les secteurs stratégiques.
On aurait pu parler effectivement aussi des fonds stratégiques. Mais par contre, son rôle, c'est de retrouver sa place le plus rapidement possible.
Le bon équilibre.
Non,
la France n'est pas une île.
Et vous terminez, les entreprises ne seront à l'avenir plus seulement une affaire d'État, ou dit autrement, l'affaire d'un État. Et si ce livre était appelé « L'État patron du capitalisme français », le prochain ne devrait-il pas s'intituler « Le G20 patron du capitalisme mondial » J'imagine que vous avez déjà réfléchi sur cette prochaine parution.
Nous en reparlerons.
Voilà, écoutez, merci à vous, Marie Vizot. Je rappelle donc votre remarquable publication « Entreprise, une affaire d'État », dans la collection Le capitalisme en mouvement, paru chez Erol aux éditions d'organisation. 14 euros, près de 130 pages. Merci à vous, Marie.
Merci à vous.
À bientôt.
Au revoir.